Turning today to Paul's second letter to the Thessalonians, chapter 1 and verse 11.
Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 1 et au verset 11. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 11. Ces paroles, c'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, que notre Dieu vous rende digne de votre vocation et qu'il accomplisse puissamment tous les desseins favorables de sa bonté et l'œuvre de la foi. Nous avons commencé la semaine dernière à considérer cette courte épître aux Thessaloniciens écrite par Paul et Silas et Timothée. Luc était avec eux pour fonder l'église à Thessalonique et cette épître est écrite de Corinthe et parle principalement des choses des temps derniers, la fin des temps. Durant notre dernière étude, nous avons vu la prière de Paul envers Dieu pour leur foi, pour leur conversion, pour leur foi. Et à présent, au verset 11, il prie pour eux. Nous désirons continuer au chapitre 2 avec ce qui est le thème principal de la lettre, l'objectif principal. Et cependant, c'est une prière remarquable ici au verset 11 que nous allons considérer. Un seul verset dans lequel l'apôtre Paul prie pour les Thessaloniciens et pour leur vocation, les trois aspects de leur vocation, de leur vie chrétienne. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, que notre Dieu vous rende digne de votre vocation. C'est là l'un des aspects, et qu'il accomplisse puissamment tous les desseins favorables de sa bonté. Oh, ceci est fort et nous allons explorer ces termes. C'est le deuxième aspect et l'œuvre de la foi avec puissance. Quelle expression rare attribuée à Dieu. C'est là le troisième point, le troisième aspect. Nous allons considérer ces choses. Mais pour comprendre ce verset pleinement, vous avez besoin de la version King James. Toutes les nouvelles versions modernes traduit ce verset différemment, d'une autre manière. Et je vais expliquer ceci. Et elle vide ce verset de tout son sens. C'est quelque chose de surprenant. Ainsi, les traductions anciennes, nous en avons besoin pour ce verset. Elles sont bien plus précises et justes. Et j'explique ceci dans un moment. Notre premier point est le suivant. Rendu digne de votre vocation. Ceci parle du salut. Et je commence avec le début du verset. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous. Auparavant, il a loué Dieu pour eux. À présent, il prie pour eux. Et il le fait continuellement. Ce terme utilisé par l'apôtre Paul, continuellement priant pour vous, signifie qu'il le fait jour après jour, au quotidien. Il prie pour eux. Dans un sens général, chaque jour, il prie pour les Thessaloniciens. Et la première partie de cette prière, c'est qu'ils soient sûrs d'être sauvés. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, en priant de manière répétée. Et Dieu reçoit nos prières répétées. Ne soyez jamais effrayés de prier à nouveau pour la même chose. Oh, ne répétez pas ces prières d'une manière automatique, machinale, parce que nous ne ressentons pas ces choses et nous ne réfléchissons pas. Ainsi, nous prions ces choses avec la même forme, avec les mêmes termes qu'auparavant, d'une manière mécanique, d'une manière automatique. Non, mais nous pouvons prier d'une manière répétée pour la même chose, de tout notre cœur. Et l'apôtre Paul le fait chaque jour, quotidiennement. Il prie pour ces trois aspects, pour les Thessaloniciens. Gardez ces choses devant le Seigneur. En faisant cela, vous exprimez votre désir sincère. Non pas que vous priez une fois et que vous oubliez, ceci n'est pas sincère. Mais vous réalisez votre privilège de la prière que nous, qui sommes si faibles, nous pouvons venir devant Dieu et il répond à nos prières. Il est prêt à écouter nos prières. Nous ne pouvons pas comprendre comment, mais le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Éternel, est prêt à écouter nos prières, les prières de ses enfants. Ainsi, nous allons prier continuellement, de manière répétée. Et ensuite, vous lui montrez que vous dépendez uniquement de lui si vous priez de manière répétée. Ne soyez pas honteux de cela. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous. Et ensuite, l'apôtre Paul commence à dire l'objet de ses prières. Et c'est notre premier point. Pour qu'il soit sûr d'être sauvé, que notre Dieu vous rende digne de votre vocation. Ce terme « vocation » ici se réfère principalement à l'offre de l'Évangile, l'appel de l'Évangile pour les âmes perdues, à croire en Christ, à venir à lui. Nous prions continuellement pour vous que notre Dieu vous rende digne d'entendre un tel appel. C'est un terme qui signifie que vous soyez sauvés par la grâce, qu'il vous rende digne, ou bien sûr vous ne pouvez jamais être digne, vous vous confiez en Christ, en sa mort expiatoire et sa justice qui est imputée pour vous, son sang versé, mais vous êtes rendu digne de cet appel par Christ. À croire, à se confier en Christ, ceci est expliqué dans le verset précédent, lorsqu'il viendra pour être glorifié en ce jour-là dans ses saints et admiré par tous ceux qui auront cru, car vous avez cru à notre témoignage. C'est là l'appel de l'Évangile. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes réellement converti, quand vous entendez l'Évangile? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? L'apôtre Paul est en souci dans ses paroles que parmi les Thessaloniciens, beaucoup soient sauvés. L'Église a grandi de manière rapide, mais peut-être que certains d'entre eux sont trompés par rapport à leur salut. Ils pensent être sauvés. Peut-être que certains imaginent qu'ils sont convertis à Christ quand ils ne le sont pas. Mais ce n'était pas profond, réel, authentique. Et il est en souci par rapport à cela. Et il prie jour après jour que parmi ces Thessaloniciens, cette grande récolte d'âmes avec tous ceux qui sont convertis et l'Église qui grandit, que tous connaissent la grâce de Dieu, que tous soient rendus dignes de leur vocation, d'être sauvés réellement par la puissance et la grâce de Dieu. Qu'est-ce qu'il se passe quand vous êtes réellement sauvés, que vous entendez l'Évangile? C'est que vous réalisez un grand besoin de Christ, vous ressentez ce besoin de manière désespérée. Je suis la personne à qui ce message est adressé, je suis loin de Dieu, séparée de lui, je suis une âme perdue, je ne marche pas avec Dieu, je ne le connais pas, je suis convaincue de mon péché. Je n'ai jamais pensé ces choses auparavant. Je pensais que j'étais une personne bonne, raisonnable, pas pire que les autres. Mais tout d'un coup, j'ai réalisé mon cœur, ma condition réelle devant Dieu. Et je suis enveloppée par ces choses. Je suis sous la conviction du péché. Je réalise mon grand besoin d'être sauvée. Est-ce que vous avez réellement ressenti ces choses? Quand vous entendez l'Évangile, que vous lisez la parole de Dieu, est-ce que vous ressentez réellement ces choses? Est-ce que vous avez réellement ressenti ces choses un jour et vous avez été en souci par rapport à votre péché et vous avez réalisé que vous êtes condamné par Dieu, que vous n'êtes pas digne de lui? Et Paul continue de prier pour eux parce que peut-être que pour certains d'entre eux, c'est simplement croire, mais de manière vague, et ne sont pas réellement convertis. Certains sont réellement sauvés et ils réalisent qu'ils ont l'aide de Dieu et qu'ils vont aller au ciel. Certains ne sont pas réellement venus à Dieu, à Christ, pour se repentir réellement de leurs péchés. Ils n'ont pas connu, ressenti cette transformation dans leur vie. Ils n'ont pas reçu cette nouvelle nature. Et chers amis, est-ce que vous avez reçu cette nouvelle nature? Est-ce que vous êtes passé par cette grande crise de la conversion, cette profondeur que vous avez réalisée? Parce que pour de telles personnes, l'apôtre Paul continue de prier jour après jour. Quand vous vous êtes converti, est-ce que vous avez abandonné le monde? Est-ce que les choses que vous aimiez auparavant, maintenant vous ne les aimez plus, vous les haïssez, vous les avez abandonnées? Et vous n'avez plus aucun goût pour ces choses. Vous vouliez les choses de Dieu, la parole de Dieu, marcher avec Christ. Et vous avez abandonné le monde. Est-ce que vous vous êtes donné à Christ entièrement? Ou est-ce que vous avez gardé quelque chose pour vous, vos ambitions, vos goûts, vos désirs? Est-ce que vous aimez encore le monde des célébrités, de la musique pop, du divertissement? Est-ce que ces choses vous fascinent encore? Est-ce que vous êtes devenu consciencieux par rapport à votre manière de vivre, par rapport au péché? En vous examinant vous-même chaque jour pour plaire au Seigneur, pour l'honorer lui et pour haïr chaque mensonge, chaque excuse que vous faites, chaque mauvaise parole, chaque colère. Ô Seigneur, aide-moi, transforme-moi. Est-ce que vous êtes devenu consciencieux? Est-ce que vous regardez à Dieu pour grandir dans la foi? Est-ce que vous vous accrochez à la vérité? Est-ce que vous aimez la vérité? Est-ce que vous vous réjouissez pour le grand jour, la venue de Christ, le retour de Christ? Est-ce que toute votre perspective a changé dans votre vie en pensant à la venue de Christ, la fin de ce chemin? C'est là la chose importante dans votre vie. Ce sont là les signes de la conversion, d'une conversion authentique. Si vous dites « ceci est un mystère pour moi », chers amis, vous devez être convertis, vous devez réellement vous repentir et chercher Dieu, vous devez commencer à croire, ceci est tellement sérieux et grave. Est-ce que vous avez réellement cru? Est-ce que vous vous êtes consacré à lui? Ceci est tellement important et sérieux parce que nous devons tous rendre compte un jour. Et vous avez cru en Christ qui a souffert, qui est mort à la croix du calvaire, à la place des pécheurs, de le recevoir, lui, de se confier en lui, de dépendre de lui, de l'aimer, de se confier en lui pour le salut. C'est là la première partie de la prière de l'apôtre Paul. Et voyez ici le désir, les sentiments de Paul alors qu'il écrit ces paroles. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, que notre Dieu vous rend digne de votre vocation, de cet appel. C'est sa manière de dire que vous soyez réellement converti, un croyant authentique, consacré entièrement au Seigneur, converti par sa puissance. C'est là la première partie de cette prière, le premier aspect. Et j'aimerais continuer avec la deuxième partie. Et qu'il accomplisse tous les desseins favorables de sa bonté. C'est une phrase tournée d'une manière un peu bizarre, qu'il accomplisse tous les desseins favorables de sa bonté, que Dieu non seulement vous sauve, mais qu'il accomplisse, qu'il amène à la perfection, qu'il amène dans votre vie tous les desseins favorables de sa bonté. Et ce n'est pas difficile de suivre cela. Est-ce que la version King James a raison en parlant de la bonté de Dieu? Vous voyez que le « sa bonté » est en italique, ce n'est pas dans l'originel grec. Les traducteurs ont inséré ce terme pour nous aider. Que Dieu accomplisse, amène à la perfection tous les desseins favorables de sa bonté dans votre vie. Les traductions modernes tendent à aller dans une direction différente, en utilisant des termes différents. Et elles disent qu'il accomplisse tous les desseins de votre bonté. Ces traductions rendent cette bonté la vôtre. Que Dieu amène à la perfection toutes vos bonnes intentions. Les nouvelles traductions disent cela. Vous êtes un chrétien, vous êtes converti, vous avez de bonnes intentions, de bons désirs. Que Dieu vous aide à les accomplir. Oh, ceci semble être une prière plutôt raisonnable. Est-ce là ce que l'apôtre Paul dit ou est-ce qu'il dit que Dieu accomplisse dans votre vie tous les desseins favorables de sa bonté? Oh, les traductions anciennes ont raison. La traduction de Tyndale, la traduction King James ont raison. C'est la bonté de Dieu et je vais expliquer pourquoi. Elles ont raison. Et pourquoi c'est tellement important? Voyez-vous, c'est une grâce souveraine. C'est un verset qui parle de l'œuvre de Dieu dans votre vie. Et voici la raison pour laquelle ces traductions ont raison. Que Dieu accomplisse, écoutez cela, tous les desseins favorables de sa bonté. Ceci est clair. L'apôtre Paul dit la même chose deux fois. Les paroles sont presque les mêmes en grec, qu'il accomplisse tous les desseins favorables de sa bonté, de sa faveur. Ce sont des paroles similaires, des termes similaires. L'apôtre Paul dit la même chose deux fois. Normalement, on dirait qu'une répétition ainsi est un mauvais style d'écriture. Mais ce n'est pas un mauvais style d'écriture de la part de l'apôtre Paul quand il souligne ces choses et qu'il répète un terme deux fois de cette manière-là. C'est d'une manière délibérée pour souligner ces termes, pour souligner son argument. C'est comme l'équivalent de dire que Dieu accomplisse ou amène à la perfection toute la bonté si merveilleuse, toute sa bonté si merveilleuse, tous les desseins favorables de sa faveur. C'est là ce que l'apôtre Paul dit d'une certaine manière. Est-ce qu'il dirait ceci de notre bonté? Est-ce qu'il pourrait parler ici de nos bonnes intentions? Imaginez l'apôtre Paul dire que Dieu accomplisse et bénisse toutes ces merveilleuses bonnes intentions que vous avez. Oh non, pas du tout. Non, nous sommes inadéquats, nous sommes pécheurs et faibles dans notre nature même, non pas des gens avec des bonnes intentions si merveilleuses. Oh, peut-être que c'est le genre de choses que vous verriez sur une carte de salutation qui vous est écrite. Mais non, quand l'apôtre Paul parle de la bonté d'une manière soulignée ainsi si forte, c'est la bonté de Dieu, la faveur de Dieu, et ceci est si important. Ce ne peut pas être la nôtre. Ainsi, c'est sa bonté qui est rajoutée est juste, qu'il accomplisse tous les desseins favorables de sa bonté, de sa grande bonté, de sa bonté infinie, découle pour nous un fleuve de bénédictions, un fleuve de bonnes intentions de la part de Dieu. Dieu est bon. Dieu est amour. Et de sa nature même, de son cœur même, découle envers ses enfants un fleuve de bénédictions, de bonnes intentions. D'abord, quand vous êtes sauvés, et ceci suit la première partie du verset, vous êtes réellement sauvés à présent, dit l'apôtre Paul. Ainsi coulera pour vous ces intentions merveilleuses de la bonté de Dieu que Dieu veut vous donner. La compréhension, quelle bénédiction que d'être sauvé, que d'avoir la compréhension des choses, la compréhension de la parole de Dieu, la compréhension du chemin du salut. La compréhension de l'être, du caractère même de Dieu, la compréhension de la nature humaine, la compréhension de la bonté de Dieu, de comment elle a été exprimée à la croix du Calvaire et en Christ, la compréhension des grandes doctrines de la foi, la compréhension des desseins de Dieu, des buts de Dieu pour maintenant et pour l'avenir. Ces choses sont expliquées dans l'Écriture. La compréhension de tant de choses, d'avoir la grande bénédiction de la profondeur de la compréhension qui est donnée par Dieu, c'est là la bonne intention de Dieu pour ses enfants, qui découle de sa bonté. Auparavant, nous étions inconvertis, nous ne comprenions rien, nous ne connaissions rien de Dieu, ignorant des choses éternelles, ignorant de nous-mêmes. À présent, nous comprenons. La lumière de la parole de Dieu, de la vérité de Dieu, et non seulement il y a la compréhension, mais également la purification. Non seulement il ôte notre culpabilité, mais quelque chose de bien plus précieux, c'est la bonté de Dieu que de nous purifier et de nous rendre meilleurs, de nous reconstruire, de nous recréer. La purification a deux parties. La partie négative pour ôter la culpabilité du péché et la partie positive pour nous purifier, pour nous améliorer, pour nous reconstruire, reconstruire une personne. Cela va plus loin que le pardon. Il y a cette nouvelle nature, cette reconstruction en nous. La bénédiction de Dieu coule dans la vie du chrétien. Et alors que nous coopérons avec lui, nous grandissons et il nous rend meilleurs. Il nous fait grandir cette bonté si immense de la part de Dieu et cette communion avec Dieu également. Non pas que nous ressentons la présence de Dieu d'une manière physique, mais nous avons une assurance de la présence de Dieu. Et alors que nous prions, nous savons et nous avons la conviction qu'il est là, qu'il entend nos prières. Et ceci nous est authentifié quand le Seigneur répond à nos prières constamment et d'une manière merveilleuse. Et ainsi, nous sommes pleins de joie, pleins d'assurance, quand nous venons à Dieu dans l'assurance que nous louons son nom, que nous le prions. Nous ne ressentons pas un toucher ou une sensation, quelque chose de physique, mais nous sommes sûrs et assurés d'une manière merveilleuse que nous sommes dans la communion avec lui, la communion avec Dieu. Une paix en nous, ceci découle de la bonté si merveilleuse de Dieu. Et la joie et la paix, dit le Seigneur. Ma joie, je vous la donne, dit le Seigneur. Je vous donne ma joie d'avoir non seulement l'assurance, mais ce sens de la joie, de ce plaisir dans les choses de Dieu, d'être encouragé par lui et d'avoir du plaisir dans sa parole, d'avoir la communion avec lui. Ces choses découlent de la bonté de Dieu. Et cette joie, quand nous pensons à la gloire future, cette félicité future dans le ciel, toutes ces choses viennent de la bonté de Dieu. Ainsi l'apôtre Paul prie, c'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, pour que, premier aspect, notre Dieu vous rende digne de votre vocation, pour que vous soyez sûrs d'être sauvés. Deuxième aspect, qu'il accomplisse, qu'il amène à la perfection tous les desseins favorables de sa bonté, de sa faveur, alors que ses bénédictions coulent pour vous. C'est là le deuxième aspect. Et le troisième aspect est l'œuvre de la foi avec puissance. Avant que j'en arrive à cela, laissez-moi parler pour un moment des obstacles qui nous empêchent de recevoir la bénédiction de Dieu. Nous devons parler de ces obstacles parce que ces bénédictions de Dieu, la compréhension, notre vie qui est recréée, la communion avec lui, cette joie, ce plaisir en lui, vont couler pour vous, mais vous pouvez mettre des obstacles et vous pouvez gâcher ces choses d'une manière évidente si vous vous adonnez au péché. Ainsi, vous vous coupez de la bonté de Dieu. Si vous ne vous examinez pas vous-même, comment est-ce que j'ai vécu aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait? De quelle manière est-ce que j'ai chuté? S'il n'y a pas d'examination de votre cœur, s'il n'y a pas de regret, de repentance jour après jour, s'il n'y a pas de prière quotidienne pour avoir la victoire sur ce péché, alors ceci est un obstacle qui va empêcher la bénédiction de Dieu, la bonté de Dieu, de couler dans notre vie. Si je veux mon propre chemin, je veux ce que je veux, peu importe ce qui est juste, ce que le Seigneur veut. Si ceci vient dans notre vie, ceci empêche la bénédiction de Dieu, les murmures, les plaintes. Combien il est facile pour le diable d'amener le croyant à murmurer, à se plaindre. Pourquoi est-ce que je devrais passer par cette expérience? Pourquoi est-ce que ceci se passe dans ma vie et quelque chose d'autre? Pourquoi? Un esprit de plainte qui murmure, ceci arrête le fleuve de bénédiction de Dieu et nous sépare de sa bénédiction. Ou si nous sommes trop chagrinés, il y a beaucoup de choses difficiles dans notre vie, mais si nous passons trop de temps à penser à ces choses et nous sommes pleins de pitié de nous-mêmes et nous sommes dans la tristesse et nous pensons uniquement à ces choses, ainsi nous nous séparons de la bénédiction de Dieu. Ou si nous passons trop de temps à penser à des choses mondaines, à des choses de divertissement, à du rythme, à de la musique, quelque chose qui rend votre esprit esclave, nous devons faire attention de ne pas être un obstacle à la bonté de Dieu dans notre vie, à ses bénédictions. Et ensuite, la prière, le Seigneur peut l'exaucer. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous que notre Dieu vous rende digne de votre vocation et qu'il accomplisse tous les desseins favorables de sa bonté. Et le dernier point, le troisième aspect de la vie chrétienne est l'œuvre de la foi avec puissance. L'œuvre de la foi de la part de Dieu dans votre vie, c'est toujours encore son œuvre de foi. Dans 1 Thessaloniciens, l'apôtre Paul se réfère à votre œuvre de foi. Mais ici, c'est l'œuvre de la foi. C'est l'œuvre de Dieu, ici. Le troisième aspect, c'est la même chose que le deuxième aspect, quelque chose qui vient de Dieu, l'œuvre de la foi avec puissance. Quand l'apôtre Paul se réfère à notre œuvre de foi, il se réfère aux choses que nous faisons pour le Seigneur. Quand il se réfère à l'œuvre de Dieu dans la foi, il se réfère à la grande œuvre de Dieu durant toute notre vie chrétienne pour construire notre foi, notre confiance en lui. Ceci est différent de toutes les autres choses que Dieu nous donne, qui découlent de sa bonté. Et ceci est donné dans un point distinct, l'œuvre de la foi, qu'elle soit accomplie dans notre vie. Ceci nous aide à voir ces choses de manière claire. L'une des grandes choses que Dieu fait en nous et construit en nous, c'est la foi. Durant toute notre vie, il construit notre confiance en lui, notre foi. Ceci se réfère à l'œuvre de Dieu en nous. Et laissez-moi l'exprimer ainsi alors que nous en arrivons à la conclusion. Vous aurez des épreuves, des tribulations. Et regardez chaque épreuve comme étant une épreuve de votre foi. Ceci est permis pour construire votre foi, pour faire grandir votre foi. Beaucoup de choses difficiles se passent et Dieu permet que ces choses se passent, même pour ses enfants bien-aimés, les choses que le monde fait contre nous ou le péché, et Dieu permet que ces choses entrent dans notre vie. Mais l'objectif de Dieu, c'est de fortifier notre foi. Dans chaque épreuve, nous ne fuyons pas simplement loin de l'épreuve, nous ne nous trouvons pas simplement là à recevoir ces choses contre notre volonté, mais nous acceptons que ces choses sont permises dans notre vie pour fortifier notre foi, pour que nous puissions répondre et faire face à ces choses comme un chrétien devrait y faire face et amener ces choses dans la prière au Seigneur et nous confier en lui et nous tenir fermement par son aide, par sa force. Chaque épreuve est dans un certain sens un test pour nous raffiner. Et c'est le cas pour chaque chose dans notre vie. Chaque tentation, nous résistons à la tentation. Et ceci fait grandir notre foi pour que je puisse utiliser l'aide du Seigneur et me confier en lui et prier le Seigneur dans une prière d'urgence. Et je résiste à la tentation et la foi est approfondie. Où chaque privation, ce n'est pas simplement quelque chose pour lequel je dois me plaindre. Non, c'est quelque chose que je dois amener au Seigneur et je lui demande sa force pour endurer, pour l'honorer lui, pour le louer lui. Et louez-le, peu importe ce qui se passe, peu importe les circonstances, chaque privation va être permise pour fortifier notre foi, notre confiance en lui. Chaque insulte est permise dans notre vie pour que ceci puisse fortifier notre foi. Nous nous confions dans le Seigneur, nous découlons notre foi de lui. Peut-être quelqu'un nous insulte, ceci est injuste, peut-être que ceci nous décourage, peut-être que quelqu'un dans le monde nous ôte quelque chose et nous calomnie, mais nous pensons à notre bénédiction, à l'aide de Dieu, à notre bénédiction, nos privilèges. Nous qui connaissons Dieu et ceci fortifie notre foi. Chaque moment d'épuisement, de fatigue nous amène au Seigneur. Et nous avons une foi qui est fortifiée, nous nous confions encore plus en lui. Chaque doute nous amène non pas à penser à nos doutes, mais à méditer sur ces choses qui sont certaines, que nous avons expérimentées, que Dieu a fait pour nous dans notre vie d'une manière sûre, certaine, et ceci fortifie notre foi. Chaque acte de témoignage, chaque parole de témoignage pour les âmes perdues, Nous voyons ceci dans ce verset. L'apôtre Paul, vous pourriez-vous dire, a eu un temps de succès avec ses collègues en prêchant aux Thessaloniciens. Beaucoup ont été convertis, mais il prie. Non seulement il est un prédicateur, il est quelqu'un qui prie. Et vous voyez ceci dans Actes chapitre 6, quand les apôtres prêchent l'évangile et ils ont aussi ce ministère de compassion. Ils aident ceux qui sont privés de leurs biens, les chrétiens qui ont été exclus de leur maison parce qu'ils ont donné leur vie à Christ. Et ils organisent les choses pour soutenir ces gens. Et ils disent « Oh, cherchez des diacres pour s'occuper de ce ministère parce que nous devons nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. » Ces choses vont ensemble. La prière et le ministère de la parole. Quelqu'un dit « Oh, je veux enseigner à l'école du dimanche. » Oui, c'est bien. Est-ce que vous réalisez que pour chaque leçon que vous enseignez, vous devez passer ce temps dans la prière également? Vous voulez être un prédicateur? Vous réalisez que pour chaque prédication que vous prêchez, vous devez être dans la prière également? C'est là ce que l'apôtre Paul dit ici dans ce verset. Il les a laissés à présent, mais il dit « Je prie pour vous chaque jour, continuellement. » Chaque acte de témoignage devrait vous amener à la prière pour la personne à laquelle vous avez parlé. Et ceci fortifie votre foi et Dieu entend votre prière et bénit vos paroles de témoignage pour lui. Chaque nouvelle que vous entendez d'un missionnaire dans un pays éloigné devrait encourager votre foi et fortifier votre foi parce que ceci vous amène à intercéder pour cette personne, à prier pour eux, pour leur situation. Ceci fortifie votre foi. Chaque nouvelle année, chaque jour de l'an est une épreuve de foi. Je remets cette nouvelle année au Seigneur. Chaque anniversaire, si vous voulez, chaque nouvelle journée, chaque enfant né dans une famille, un enfant, une nouvelle vie dans la famille et ce qui arrive et vient avec cet enfant, un grand programme de la foi, vous devez amener cet enfant devant le Seigneur chaque jour. Vous avez une nouvelle personne dans votre ministère d'intercession, chaque nouvel enfant fait grandir votre foi, votre confiance dans le Seigneur, chaque expérience, chaque nouveau travail, toute nouvelle profession. Je remets ces choses au Seigneur. Ceci fortifie ma foi. Je veux témoigner à chaque personne alors que l'occasion vient. Prier pour chaque collègue, c'est un grand exercice de foi. Et nous lisons ceci au verset 11. Qu'il accomplisse tous les desseins favorables de sa bonté et qu'il accomplisse l'œuvre de la foi avec puissance. Chaque événement de flatterie, quelqu'un vous flatte, c'est un test de votre foi, de vous dire en vous-même, non, 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 ils ne me connaissent pas. Ils ne connaissent pas cette créature si faible, toute ma faiblesse. Si j'ai fait quelque chose qu'ils ont apprécié, je loue le Seigneur. C'est un test de foi. Ceci fortifie ma foi en lui, ma gratitude envers Dieu, ma dépendance envers lui. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul l'exprime, qu'il accomplisse l'œuvre de la foi avec puissance au verset 12, afin que le nom, les attributs de notre Seigneur Jésus-Christ soient glorifiés en vous, parce que vous le voyez, lui qui est invisible, en toute situation dans votre vie, et vous vous confiez en lui de plus en plus, toujours plus. Et peut-être que les mondains autour de vous ne le remarquent pas, mais ses attributs sont glorifiés en vous alors que vous vous confiez en lui, que votre foi est fortifiée. Et alors peut-être vous tombez malade et votre foi est fortifiée. Vous vous confiez en lui pour qu'il intervienne, pour vous aider, pour que vous puissiez l'honorer, peu importe votre situation, peu importe votre maladie, peut-être qu'il va entendre votre prière, et même s'il ne répond pas comme vous le voulez, vous allez l'honorer. Et quand le moment va venir, que vous allez faire face à la mort, vous serez prêt. Et c'est comme si vous y alliez avec joie, certain, assuré qu'il est avec vous, vous vous confiez en lui, et il vous amène dans la gloire céleste, durant toute votre vie, dans toute situation, Dieu teste votre foi et fortifie votre foi, votre confiance en lui. Votre confiance doit grandir. C'est là les trois aspects de la prière de l'apôtre Paul. Que vous soyez réellement sauvé, non pas simplement un croyant de nom, que vous expérimentiez toute la bonté de Dieu dans votre vie et que vous n'ayez aucun obstacle dans votre vie pour ces choses, que votre communion avec lui, votre joie en lui puisse grandir et que votre foi soit fortifiée de jour en jour, votre confiance en lui. C'est une prière en trois aspects et une prière glorieuse en un seul verset. Au verset 12, « Afin que le nom, les attributs de notre Seigneur Jésus-Christ soient glorifiés en vous. » Relisez ce verset pour vous-même, chers amis, et voyez, considérez ces trois aspects et que ce soit là votre prière pour vous-même et pour d'autres.